Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une seule publication, mais alors elle est particulièrement dense.
Bonjour. Oui, c'est le magazine LODJ iWeek qui fait le bilan de l'année 2025. Et dès l'éditorial, le ton est donné. Il y a une affirmation très très forte. 2025 a été l'année où le Maroc a gagné.
C'est ça. On va donc explorer une histoire à deux visages. D'un côté, un pays qui semble avoir trouvé une trajectoire claire, confiante, et en miroir, un monde qui lui paraît de plus en plus fragmenté, de plus en plus imprévisible.
C'est exactement ça.
Notre mission, du coup, c'est de comprendre comment ces deux réalités coexistent. On va s'appuyer sur leurs articles qui couvrent vraiment tout, du sport à la tech, la diplomatie.
Et l'idée, c'est de décortiquer ce qu'ils appellent une année pleine.
Voilà. Pour voir ce qui se cache derrière ce portrait d'une nation en confiance à l'aube de 2026. Et pour incarner cette confiance, le point de départ est assez évident, c'est le sport, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.
Ah oui?
Ce n'est pas juste un tournoi. Le magazine parle d'une respiration collective.
C'est un beau terme. Un moment où tout le pays a vibré. Il y a une formule qui m'a marqué dans l'édito, « Gagner devient une habitude, pas une surprise ». Ça en dit long sur l'état d'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'une perception, disons, locale.
Non.
La presse espagnole, par exemple, regarde cet événement avec énormément d'attention. Pour elle, cette CAN, c'est un test grandeur nature.
Une sorte de répétition générale, en fait.
Exactement, une répétition générale avant le Mondial 2030, co-organisé avec l'Espagne et le Portugal. Et le verdict est très positif.
Sur l'organisation, j'imagine.
Sur l'organisation et surtout sur les infrastructures. Sur les 9 stades de la CAN, 5 sont déjà prévus pour la Coupe du Monde. On sent une planification, une vision.
Et sur le terrain aussi, ça a suivi. On parle beaucoup de la performance de Brahim Diaz, élu homme du match contre les Comores. Il symbolise un peu cette nouvelle génération.
Clairement, mais c'est une phrase de l'entraîneur Walid Regragui qui capture vraiment l'atmosphère. Il dit « Nous voulons sentir le feu dans les stades. C'est une demande, mais c'est aussi une promesse. » L'équipe assume ce statut.
Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ce succès sportif, qui est très visible, est en fait le reflet de consolidations beaucoup plus profondes.
Plus silencieuses.
C'est ça. Sur le plan diplomatique, par exemple, le mot qui revient tout le temps, c'est consolidation.
Oui, et l'exemple clé, c'est la dernière résolution de l'ONU sur le Sahara. La perception qui s'en dégage, je cite, c'est que le Maroc n'est plus sur la défensive. Il avance, argumente, convainc.
C'est un vrai changement de posture.
Absolument.
Et on retrouve ce même changement dans l'économie. Un des articles affirme que le discours public est devenu plus mature, plus centré sur la productivité, la valeur.
L'efficacité.
Voilà. Mais est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que les sources donnent des preuves concrètes?
Excellente question. Et la réponse est oui, il y a du concret. D'abord, des chiffres bruts. Les recettes fiscales ont bondi de presque 15% fin novembre.
Ah oui, quand même.
On parle de plus de 300 milliards de dirhams.
C'est colossal, ça montre que l'économie tourne.
D'accord. Et puis, il y a des initiatives plus symboliques, comme la mission de la SMX, l'Association des exportateurs en RDC. Plus de 150 rendez-vous d'affaires à Kinshasa. C'est du pragmatisme, de la coopération sud-sud, qui crée de la valeur.
Et puis, il y a eu cette annonce, en toute fin d'année, qui a fait l'effet d'une bombe.
Oui.
Le géant des puces électroniques, Nvidia, qui choisit le Maroc comme son hub stratégique pour l'Afrique. C'est une validation énorme, non?
Énorme. Et le mot-clé dans leur annonce, c'est « intelligence artificielle souveraine ». Ce n'est pas anodin du tout.
Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement une IA souveraine? Ça veut dire que le Maroc va contrôler ses propres algorithmes, ses données?
C'est exactement l'enjeu. C'est développer les infrastructures, les compétences, pour ne pas dépendre de technologies étrangères pour une ressource aussi stratégique.
D'accord.
Pour Nvidia, le choix du Maroc, c'est la stabilité politique, les infrastructures et une vision claire. C'est un pari sur le Maroc comme puissance technologique régionale.
Malgré tous ces signaux positifs, l'éditorial parle d'un optimisme lucide.
Oui.
Le magazine reconnaît que l'année a été exigeante, parfois rude, mais que le pays n'a pas sombré dans le cynisme. Et il y a une analyse intéressante sur la jeunesse, la génération Z.
Oui, une transformation que les sources qualifient de silencieuse mais fondamentale. La formule, c'est « moins dans la rue, plus dans les projets », c'est ça. L'idée, c'est que l'énergie de la jeunesse se canalise vers l'entrepreneuriat, les start-up, la création de contenu. Mais cet espoir reste lucide.
Il n'occulte pas les défis. Non, bien sûr. Les défis immenses qui restent, hein. L'emploi, l'éducation, la gestion de l'eau. D'ailleurs, sur ce point, il y a une bonne nouvelle concrète. Les réserves des barrages sont remontées à presque 35%. Ça donne un peu d'air. Ce portrait d'un Maroc qui avance de manière structurée est d'autant plus frappant quand on dézoome.
Quand on regarde le contexte international décrit dans les mêmes pages, oui.
Là, le contraste est saisissant. On entre dans une ère de démonstration de force.
Symbolique, militaire, diplomatique. Le premier exemple est une tension mémorielle très forte. Le Parlement algérien a adopté une loi pour, je cite, « criminaliser le colonialisme français ».
En exigeant des excuses officielles, le texte liste des crimes imprescriptibles, comme les essais nucléaires.
Et ce qui est clé pour comprendre, c'est le timing. L'article le précise bien.
Ce vote intervient juste après la reconnaissance par la France, en octobre 2024, de la souveraineté marocaine sur le Sahara.
Exactement. La réaction française, qui est rapportée par le magazine, qualifie l'initiative de « clairement hostile ». On rapporte les faits, bien sûr, sans prendre parti.
Bien sûr, mais on voit bien la complexité des équilibres régionaux.
On change complètement de registre, mais pas d'intensité, avec une annonce qui est du pur Donald Trump.
Ah.
Il a décidé de construire une nouvelle classe de navires de guerre, les Trump Class USS Defiant. Les plus grands du monde.
Et la touche personnelle, c'est qu'il a déclaré vouloir superviser le design lui-même.
Et pour éviter, je le cite, de construire des navires affreux.
Au-delà de l'anecdote sur l'esthétique, c'est une démonstration de force militaire assez claire.
Même s'il dit « ce n'est pas pour la Chine », tout le monde comprend le message, alors que Pékin vient de mettre en service son troisième porte-avions.
Et cette politique étrangère très directe, on la retrouve sur le plan diplomatique aussi.
Oui, une autre friction avec le Danemark. Trump a nommé un envoyé spécial pour le Groenland.
Et Copenhague a jugé ça totalement inacceptable.
Ils y voient une nouvelle preuve de l'intérêt américain pour racheter le territoire. C'est une logique de rapport de force très décomplexée.
Et pour boucler ce tour d'horizon, il y a une petite phrase de Vladimir Poutine.
Oui, qui qualifie de vol la volonté européenne d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Chaque mot pèse.
Cette tension entre les nations, on la retrouve en miroir dans le monde numérique. Il y a une autre forme de guerre froide qui est en train de se jouer.
Pas pour le territoire, mais pour le contrôle de l'information. Et là, on assiste à un vrai tremblement de terre.
Oui, le magazine parle du passage du SEO au GEO. Alors, SEO, on connaît un peu, c'est l'art d'être bien classé sur Google.
C'est ça.
Mais le GEO, Generative Engine Optimization, qu'est-ce que c'est ?
Alors, imaginez, avant, le but, c'était d'avoir la plus belle vitrine sur la rue principale pour que les gens entrent dans votre magasin. Ça, c'était le SEO.
D'accord.
Maintenant, avec le GEO, un assistant personnel fait les courses pour tout le monde. Votre but, c'est de convaincre cet assistant que votre produit est le meilleur. Vous n'avez plus jamais le contact direct avec le client.
Ah oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. L'enjeu, c'est plus d'être cliqué, mais d'être cité, repris, synthétisé par une IA.
Exactement. Et l'article pose une question fondamentale. Pour un média, être cité sans être cliqué, est-ce une reconnaissance ou une spoliation ? Tout le modèle économique basé sur le trafic s'effondre. Et il y a deux autres dangers majeurs. D'abord, l'opacité. Les critères de l'IA, c'est une boîte noire.
On ne sait pas pourquoi elle choisit une source plutôt qu'une autre.
Mystère. Et ensuite, le risque de manipulation. Si des acteurs malveillants comprennent comment séduire ces algorithmes, ils peuvent diffuser de la propagande à une échelle jamais vue.
Mais cette révolution technologique, elle a aussi ses ratés. Et en 2025, il y en a eu des spectaculaires.
Ah oui, les sources listent un véritable bêtisier de la tech. On a presque l'embarras du choix.
Quel est votre préféré ?
Mon préféré, c'est Grok, le chatbot d'Elon Musk, qui a conseillé aux gens de l'appeler Mecca Hitler avant d'être suspendu en urgence.
Incroyable.
On imagine l'ambiance dans les bureaux ce jour-là, hein ?
Difficile de faire pire. Et juste derrière, on a Meta, dont les lunettes connectées ont tout simplement refusé d'obéir en pleine démo publique.
Le fameux effet démo puissance 1000.
Sans oublier le smartphone T1 de la famille Trump, entièrement fabriqué aux États-Unis, qui n'est jamais sorti.
Ou l'iPhone 17 Ultra, dont la couleur orange virait au rose.
Ces ratés nous rappellent que l'innovation à marche forcée, ça grince parfois.
Heureusement, à côté de ça, il y a des avancées très concrètes. Une première mondiale a eu lieu. Le système Autoland de Garmin.
Oui, qui fait atterrir un avion de manière autonome. Il a été utilisé pour la première fois en conditions réelles d'urgence. Un jet privé s'est posé sans problème alors que le pilote était devenu incapable.
C'est une technologie qui va sauver des vies.
Absolument. Et il y a une autre innovation, plus terre à terre, qui lance un débat de société passionnant.
L'expérimentation du feu de signalisation bleu aux États-Unis.
Un feu bleu, pourquoi faire?
Il serait réservé aux voitures autonomes. L'idée, c'est de leur donner un créneau pour traverser les carrefours tout en même temps, de façon optimisée.
Ce qui fluidifierait le trafic pour tout le monde.
En théorie, oui.
Mais ça crée une sorte de privilège algorithmique, non? Les conducteurs humains devraient attendre un peu plus. L'article dit que des associations parlent déjà de territoires confisqués.
C'est tout le débat. On voit comment la technologie ne fait pas que nous donner de nouveaux outils.
Elle réorganise l'espace public.
Et les règles du vivre ensemble, c'est une question presque philosophique qui se pose au coin de la rue. Cette idée de réorganisation de nos vies nous amène au dernier grand thème, les tendances de société et la culture. Et là, il y a une tendance de fond en 2025, le silence volontaire comme nouveau luxe. C'est une idée très contre-intuitive, mais très puissante. Face à la saturation permanente, au bruit, aux notifications, le silence devient un choix conscient.
Un marqueur social ?
Oui. Le vrai luxe, ce n'est plus d'accumuler, c'est de soustraire, de maîtriser son temps, de refuser l'urgence. C'est ce que l'article appelle une forme de pouvoir silencieux. Et ce qui est fascinant, c'est le contraste. Alors que le monde occidental recherche le silence, le Maroc, lui, semble vouloir faire entendre sa voix avec éclat, à travers sa culture. C'est presque un chassé-croisé des aspirations. L'un cherche à se retirer, l'autre à s'affirmer. C'est une dynamique très puissante.
Et cette voix marocaine s'exprime de mille manières. L'article met en lumière l'ouverture de la maison culturelle du tapis à Marrakech.
Un projet de Nasser Kuzikez pour rendre hommage aux tisseuses. Il y a un proverbe berbère cité qui est absolument magnifique.
Ah oui.
Le tapis est un livre ouvert où les mains des femmes ont décrit, avec de la laine et du temps, l'âme d'un pays.
C'est superbe. Et ce dynamisme, on le retrouve ailleurs. Fès a été sacrée destination incontournable en Afrique en 2026 par Condé Nast Traveler.
Le prestigieux magazine, oui. Il salue la vitalité de sa médina, de ses festivals et de ses fondouks.
Ses anciennes auberges de marchands transformées en ateliers.
Exactement. Et il ne faut pas oublier Essaouira, avec la 9e édition de son festival Jazz sous l'Arganié.
Qui fait dialoguer le jazz européen et les musiques du monde, et notamment les musiques gnawa. C'est l'illustration parfaite de cette culture marocaine, à la fois ancrée dans ses traditions et totalement ouverte sur le monde. Donc, pour résumer, l'image qui se dégage de cette année 2025 est...
pleine de contrastes.
D'un côté, un Maroc qui semble avoir trouvé son rythme, qui consolide sa position, qui affiche une confiance sereine, que ce soit sur un terrain de foot ou sur la scène culturelle. Et de l'autre, ce même Maroc évolue dans un monde qui, lui, semble aller dans la direction inverse. Plus tendu, plus fracturé, et confronté à une révolution technologique qui redistribue toutes les cartes du pouvoir.
Absolument.
Ce qui nous amène à une pensée pour la route. Si on met en parallèle l'émergence du géo qui réorganise la hiérarchie de l'information.
Et celle des feux de signalisation bleue qui réorganise la priorité dans l'espace physique qu'on partage.
Alors la question se pose.
À l'heure où les algorithmes commencent à régir non seulement ce que l'on sait, mais aussi comment l'on se déplace, la véritable souveraineté de demain, pour un individu comme pour une nation, ne résidera-t-elle pas dans la capacité à comprendre et à maîtriser ces nouvelles grammaires invisibles qui façonnent nos vies?